Vous écoutez Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment de la saga de dystopie fantastique Absolue, parue chez Big Bang, numéro 1 des ventes jeunesse à sa sortie. Les mots raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition et qui vous aide à aller des premières idées à la publication de votre roman. C'est aussi une académie en ligne avec des masterclass et des ateliers en live chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Avant de démarrer cet épisode, je tiens à vous annoncer la création d'un quiz destiné aux auteurs pour savoir quel type d'écrivain ou d'écrivaine vous êtes. À la clé, votre chronotype, vos qualités, mais aussi plein de conseils pour pallier à toutes les difficultés que vous rencontrez en ce moment dans l'écriture de vos romans. J'espère que ça va vous plaire, le lien est en description de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis tellement contente aujourd'hui d'être avec Eva Kim. Faut savoir un truc avant même qu'elle ait le temps de parler. Eva, je l'ai découverte il y a plusieurs mois, si ce n'est vraiment un bon moment maintenant, peut-être que ça remonte maintenant en années, puisque ça commence à faire, grâce à ces vidéos parodiques sur TikTok, et je vais l'avouer tout de suite, des vidéos parodiques One Direction, Eva, il faut qu'on le dise. Et ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais trop t'avoir sur le podcast pour discuter de la plateforme, parce que tu es autrice auto-éditée et tu te sers de TikTok pour parler de tes romans, parler de ta vie d'autrice, et je suis fan de tout ton contenu, et c'est un peu flippant, mais je suis capable de donner ta routine heure par heure chaque jour grâce à TikTok. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, j'espère que tu vas bien.
Merci à toi de m'avoir invitée, je vais très bien, et c'est un plaisir d'être ici.
C'est vrai?
Oui.
Bon, tant mieux alors. Tu n'as pas peur qu'on évoque tous les sujets que tu oses évoquer devant des centaines de milliers, si ce n'est millions de personnes sur TikTok, on est d'accord?
Je suppose qu'ils en savent autant que toi sur ma vie, donc dans tous les cas, tu n'auras pas trop d'exclus, je pense.
Ok, bon bah parfait. Alors, de toute façon, aujourd'hui, on est surtout là pour parler un peu de stratégie de contenu aussi, parce que je pense que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter? Je t'ai rapidement présenté dans cette introduction, mais je pense que tu le feras encore mieux que moi pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore.
Ah là là, les présentations, quelle phobie.
Je sais, c'est la pire question, mais on commence comme ça. Et après, toutes les autres questions paraissent beaucoup mieux.
Tu m'étonnes. Donc moi, c'est Eva Kim, sous mon pseudonyme. J'ai 25 ans. Et aucun rapport avec mon activité actuelle, enfin si un petit peu par rapport à TikTok, mais moi j'ai fait des études d'école de commerce. Et un beau jour, juste après avoir terminé mes études, je me suis réveillée et je me suis dit que je ne voulais pas du tout faire du commerce. Et donc ça fait maintenant un an que j'ai pris la décision de partir en Corée du Sud et ça fait à peu près 6 mois que j'y suis. Et je passe ma vie à écrire mes petits bouquins à l'autre bout du monde.
Ok, je pense que déjà, rien que ça, avec ça, on peut parler de ça. Et tu as choisi d'expatrier, c'est pas mal aussi, de t'expatrier en Corée du Sud pour vivre ton rêve, comme tu le dis. Comment t'en arrives à ce choix? Parce que c'est pas rien de... Enfin, tu viens de finir une école de commerce qui veut aussi dire dette d'école de commerce, qui est quand même assez élevée. On va pas se mentir et on va être transparent là-dessus. Et toi, tu te dis, je vais aller à l'autre bout du monde, dans un pays qui est pas connu pour être aussi bon marché dans sa façon de vivre et tout, pour aller écrire mes romans. C'était quoi le raisonnement et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix, en fait,
ouais,
au départ?
Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été très littéraire, mais au plus profond de moi. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je rêvais de faire L et ensuite de faire lettres modernes, etc. Il s'est avéré que je n'étais pas une très bonne élève, donc on m'a refusé ce passage en L, et j'ai terminé un peu par défaut en STMG. Et à partir de ce moment-là, j'ai accepté le jeu de l'école. C'est-à-dire que j'ai accepté de devoir être bonne élève pour avoir ce que je voulais. Le problème, entre guillemets, c'est que j'ai tellement été bonne élève qu'on m'a envoyé vers le chemin le plus logique quand tu es bonne élève, c'est-à-dire année de prépa et ensuite école de commerce. Parce que l'STMG, c'est le monde de l'entreprise, marketing ou finance, ou voilà, tu fais ton choix ensuite. Et je me suis un peu enfermée dans ce rôle de la bonne élève parce que malheureusement, une fois que tu l'as, tu es obligée de t'y tenir parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et donc, j'ai un peu pris le schéma classique et je me suis un peu enfermée dans l'idée que dans tous les cas, je ferais du marketing et puis c'est tout, et parce que c'est ce que ça marche et C'est ce qui va me permettre de rembourser mon prêt aussi. Parce qu'effectivement, j'ai fait un prêt étudiant pour rentrer en école de commerce qui est très, très élevé. Et en deuxième année d'école de commerce, j'ai fait un échange universitaire en Corée du Sud. C'était vraiment mon rêve de partir en Corée du Sud parce que j'ai grandi avec les dramas coréens, la K-pop, etc., on connaît. Et cette année d'échange est tombée en même temps que le confinement en France. C'est-à-dire, c'était la période où tu voyais un peu des personnes dans la trentaine ou dans la quarantaine qui se rendaient compte que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils s'étaient un peu trompés là-dessus parce que, alors, dans le malheur du confinement, parce que c'est pas drôle ce qui s'est passé, mais ils commençaient à se rendre compte que c'était peut-être pas le bon chemin qu'ils avaient pris et ils se rendaient compte un peu de la valeur de la vie et de ce qu'ils avaient raté. Et j'ai eu ce déclic, alors que j'étais à l'autre bout du monde, il n'y avait pas du tout de confinement pour le coup, mais où je revivais parce que, en fait, quand tu pars en échange, soyons clairs, les crédits d'école te sont donnés. T'as pas d'effort à faire, c'est-à-dire que moi, j'ai pu quitter pendant 6 mois ce rôle un peu de l'élève parfaite pour profiter un peu. J'ai retrouvé surtout du temps pour écrire, en fait. Et d'ailleurs, c'est sûrement à ce moment-là que j'ai vraiment repris le complexe de Cupidon. Et j'avais, du coup, ces deux parallèles. Ce moment où je recommence à comprendre ce que je veux et à retrouver du temps pour moi et à retrouver l'écriture, en fait. Parce que pendant les années préparatoires qui avaient précédé ces années d'école de commerce, j'ai pas eu le temps. Enfin, les années préparatoires, c'est hyper compétitif. T'as vraiment
c'est la mort.
Pas... Ouais. C'est la mort. donc, j'avais ça d'un côté. Et de l'autre côté, je commençais un peu à m'intéresser à TikTok et tout. Et tu voyais tout ça, en fait, sur les réseaux défiler. Et je me suis dit, j'ai pris ce chemin-là. Je ne veux pas me rendre compte que je suis passée à côté de ce que je voulais à 30 ou 40 ans. Tu vois, un petit peu. Et donc, je pense que ça a commencé, cette idée a commencé à faire son petit chemin à partir de ce moment-là. Ce qui fait qu'en dernière année d'école, donc c'était la troisième, quand je suis revenue en France pour faire mon alternance, j'ai pris le contre-pied de mon année d'école. En fait, moi, j'étais sur un cursus marketing digital, et je me suis dit, bah moi, mon alternance, je veux la faire en maison d'édition. Je veux retrouver ça parce que c'est ça qui me passionne, et je sens que de toute façon, ça finit toujours par me rattraper. Donc voilà. Il fallait au moins que je découvre ça et que je prenne cette décision. J'ai été prise en maison d'édition, du côté un peu marketing, mais en fait, je travaillais H24 avec des éditrices et en fait, mes missions étaient vachement édito. Et je me suis dit, c'est super cool, mais c'est pas encore ce que je veux. Ça m'a un peu mis un nouveau coup, tu vois, parce que je me suis rendu compte que c'était très bien et j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui m'a beaucoup aidée ensuite pour l'auto-édition. Mais j'avais l'impression de ne pas encore être du bon côté du marché. Et que de toute façon, bah, c'était encore l'écriture qui me rattrapait, tu vois. Et du coup, nouveau coup un petit peu, parce que je me suis dit, oh là là, mais je suis endettée, mais qu'est-ce que je vais faire si je ne trouve pas ? Et vraiment, j'avais cette idée que je ne voulais pas me mettre dans une case avec laquelle je n'étais pas d'accord. C'était hors de question pour moi d'aller travailler dans une start-up ou dans un grand groupe, alors que je savais que je serais malheureuse dans les bureaux. Et pareil, maison d'édition, ça ne m'avait pas trop convaincue non plus. Donc je me suis dit, bah, tu as des économies. Ok, tu as un prêt, mais tu ne dois pas le rembourser tout de suite. Et en plus, tu as des économies. Tu as la chance d'en avoir. Donc, tu te donnes un an pour savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et en fait, le complexe de Cupidon était très, très bien avancé. Donc je me suis dit, je vais le sortir en France. Et ensuite, je pars. Et je me donne un an pour écrire et pour savoir un peu ce que je veux faire. Et bah, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, en fait.
C'est hyper, hyper inspirant. Il y a plein de choses que je comprends là-dessus. J'ai fait aussi un échange universitaire. Et c'est vrai que ça casse un peu le rythme de 17 ans d'années à l'école où on nous dit qu'il faut être sage et tout ça. Là, en échange universitaire, que tu fasses quelque chose ou non, les gens s'en fichent. Donc, ça permet vraiment de se découvrir soi-même. Et, oui, et puis effectivement, c'est avec le Covid.
Ouais. Tu rencontres tellement de personnes, d'endroits différents, etc., que tu te dis, mais en fait, le schéma que j'ai suivi, c'est pas du tout le seul qui existe. Donc,
Oui, c'est clair. Donc, c'est vrai que ça résonne beaucoup et je comprends totalement. Est-ce que c'était pas un peu flippant quand même de se dire, OK, un an devant soi, dans un pays où tu parles pas la langue, même si tu y étais déjà allé une première fois? Alors là, aujourd'hui, tu es dans un logement plus sympa, mais tu étais dans un Gaoshiwan pendant quelques mois, où pour ceux qui savent pas ce que c'est des appartements extrêmement petits. Ce serait pas légal en France, voilà,
non,
par exemple. très insalubre aussi, malheureusement. Et ok, c'était pas un peu... Enfin, j'essaye de m'imaginer beaucoup d'un coup.
C'était beaucoup d'un coup la première fois quand j'ai fait l'échange universitaire. L'avantage de l'échange, c'est que j'étais tout le temps dehors avec d'autres étudiants, donc le go Shiwon, ça me dérangeait pas. Mais effectivement, quand je suis revenue cette année, alors en plus, je suis tombée dans... C'était pas le même propriétaire. Je suis retournée au même endroit, mais c'était pas le même propriétaire. Et pour le coup, il faisait vraiment insalubre, le go Shiwon. Et comme là, je suis dans une démarche où pour le coup, je passe beaucoup plus de temps à l'intérieur parce que bah, je suis là pour écrire et il faut le faire. Ça a été beaucoup d'un coup parce qu'il y a eu ça et le fait que j'étais pas venue en tant qu'étudiante, donc tu rencontres difficilement de nouvelles personnes par rapport à la fois d'avant. Et ouais, c'était beaucoup plus sérieux que ma première venue en Corée du Sud parce que bah, j'ai un an et c'est tout quoi.
Je sais que tu passes pas mal de temps dans les cafés d'ailleurs. Chose incroyable, en Corée du Sud, les cafés sont ouverts 24 heures sur 24.
Ah oui, c'est pas pour rien que je suis en Corée du Sud, effectivement, parce que moi, mais... j'ai une hygiène de vie déplorable et donc je peux être en train d'écrire à 2h du mat dans un café vide, ça me dérange pas du tout.
D'ailleurs, tu l'as un petit peu évoqué, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Deuxième pire question de tout l'épisode de podcast, tu m'en voudras pas. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du complexe de Cupidon ?
Ah là là.
Comme ça, les gens savent de quoi on va parler pour le reste. Ouais, pitcher, je sais, je suis désolée, c'est vraiment les pires questions.
Alors, donc le complexe de Cupidon, oui, c'est une histoire que j'avais commencé à publier sur Wattpad. Et il a eu la chance de se faire remarquer par Wattpad, donc il a été mis en avant sur la page d'accueil. Et c'est là qu'il a commencé un peu à avoir plus de visibilité sur le site. Et donc moi, quand j'ai travaillé en maison d'édition, je savais d'avance qu'il ne rentrerait pas dans une ligne éditoriale très très précise qu'on voit en ce moment dans les maisons d'édition. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai entendu parler de l'auto-édition. Moi, j'avais beaucoup d'a priori là-dessus, parce que j'en comprenais pas les facettes, je pense. Mais j'ai fini par comprendre que c'était sûrement le moyen d'en faire ce que je voulais, sans qu'on vienne un peu toucher partout derrière, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai décidé de le sortir en auto-édition. Et donc, le complexe de Cupidon, c'est une histoire d'amour contemporaine, majoritairement contemporaine sur la première moitié du livre, mais ensuite c'est un petit côté fantastique qui commence à se détacher. Et c'est une histoire d'amour entre Charlie, une jeune femme très très malheureuse en amour, il lui arrive toujours des galères, etc. Et son voisin de palier, qui lui est directeur d'une agence matrimoniale complètement, enfin qui a des pratiques complètement illégales, et le mec, il est totalement tordu et prétentieux. Et en fait, ils vont se retrouver à faire un partenariat parce que Charlie, elle a ouvert son entreprise de wedding planning qui ne marche pas du tout. Et lui va lui proposer un partenariat et ça va commencer comme ça. Et c'est une histoire d'amour assez humoristique sur le ton de l'humour. Et en même temps, je pense que tu as un petit côté touchant parce que le personnage d'Eliott, même s'il est prétentieux, tu sais qu'il n'est pas prétentieux pour rien. Et voilà.
Comment ça s'est passé le lancement en auto-édition ? Genre, tu as lancé en France, tu pars sur en Corée. D'ailleurs, ça, on est à peu près à quelle année là ? On se retrouve où ? En quelle période d'année ?
Ouais, j'ai sorti Cupidon en février, je suis partie direct en mars après, juste après.
Donc, ça faisait déjà un moment que tu étais sur TikTok, puisque j'ai remonté ton fil TikTok.
Ah oui, oui, oui.
Et tu l'as créé en mai 2022.
Ah, bah voilà, j'ai la réponse. ça fait plus d'un an là.
Ouais. Oui, oui, ça va faire un an et demi, presque deux. Bravo.
Ça passe vite.
Oui. Dis-moi justement, est-ce que là déjà, première expérience, ça fait en mars du coup 2022, si c'est sorti en février 2022, ça fait 9 mois. Est-ce que pour l'instant, tu sens qu'il y a une possibilité d'être autrice indépendante en Corée du Sud ?
Moi, pour l'instant, je vis pas de l'écriture, je vis des réseaux sociaux. Mais effectivement, je me suis rendu compte que l'auto-édition te permettait d'avoir déjà des revenus réguliers. Parce que quand tu es avec KDP sur Amazon, en fait, tu es rémunéré tous les mois. Tu reçois tes royalties tous les mois. Et c'est vrai que tu gagnes beaucoup plus parce que c'est toi qui choisis en fait, combien tu tires par exemplaire vendu. Donc c'est vrai que je suis assez étonnée du fait que Cupidon me rapporte, et surtout il me rapporte sur la longueur en fait. Parce que j'ai beau... Oui, du coup, ça fait plusieurs mois. Et en fait, il continue vraiment... Les ventes ne baissent pas, en fait. Et ça me rassure assez parce que moi, mon but, c'était effectivement de commencer à avoir des revenus de mon écriture. Et c'est le cas. Mais ça, l'auto-édition, ça reste quand même une aventure assez solitaire et qui te demande vraiment beaucoup d'énergie parce qu'en fait, tu fais tout toi-même de A à Z. Bon, moi, je paye ma graphiste et je paye une correctrice, mais par contre, toutes les étapes, c'est toi qui dois les faire. Et en fait, quand tu veux sortir un livre un certain mois, en fait, il faut que tu vois vraiment beaucoup à l'avance pour déclencher le truc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, en fait, je me rends compte, va me fatiguer si je fais ça pour tous mes livres. Donc, je pense que pour moi, ce qui me conviendrait le mieux, c'est d'être auteur hybride, en fait.
Bien sûr. Ok. Mais c'est intéressant d'un point de vue financier. En plus, comme tu vis à l'étranger, c'est pas les mêmes coûts et tout. Mais justement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu disais que tu vis majoritairement des réseaux sociaux. Est-ce que c'est grâce au programme partenaire TikTok ?
Ouais, mes revenus principaux, je dirais, c'est la bêta de TikTok. Ensuite, j'ai mon livre. Et ensuite, bien sûr, bah, des fois, j'ai des partenariats, donc on te paye pour parler de webtoon, de produits, etc.
Tiens, peut-être pour les gens qui ne savent pas du tout comment ça marche, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment marche la bêta et, parce que je pense que sur TikTok, donc, c'est-à-dire la rémunération TikTok, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est extrêmement flou.
Ouais, alors moi, je suis arrivée sur TikTok au bon moment, on va dire, parce que quand j'ai commencé à grossir, c'est à ce moment-là qu'ils ont ouvert la bêta. La bêta, c'est un programme qui existe depuis moins d'un an. Oh, si, ça fait un an, là, ouais, sur TikTok. Et en fait, il s'agit de faire des vidéos de minimum une minute. Et en fait, ces vidéos rentrent dans ce qu'on appelle le programme bêta de TikTok. Et tu es rémunéré en fonction du nombre de vues que ta vidéo fait et de la qualité des vues, c'est-à-dire la durée sur laquelle va rester, par exemple, la personne qui regarde ta vidéo. Et en fonction de ça, tu as tout un tas de paramètres qui vont définir combien vaut une vue sur ta vidéo, et tu es rémunéré par rapport à ça.
Bon, parfait, merci beaucoup. Je pense que ça sera beaucoup plus clair pour toutes les personnes qui suivent. Et c'est à partir d'un certain nombre de vues et d'un certain nombre d'abonnés que tu peux t'inscrire au programme, il me semble.
Oui, tu peux t'inscrire au programme à partir de 10 000 abonnés.
Voilà. Ok, au moins ce sera clair et ce sera placé pour toutes les personnes. On peut peut-être, d'ailleurs, je pense, switcher sur le sujet de TikTok, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Tu t'es lancée du coup en mai 2022, notamment au départ toutes tes vidéos pour parler de romance. Est-ce que le but, même en mai 2022 à ce moment-là, c'était déjà de te créer une communauté de potentiels lecteurs ou au départ c'était juste pour le kiff ?
C'était totalement le but. À cette époque-là, j'étais encore en alternance et je savais que j'allais sortir le complexe de Cupidon en auto-édition et je savais que l'auto-édition, c'était très compliqué parce qu'il faut communiquer, tu es tout seul, t'es pas diffusé en librairie, etc. Donc je me suis dit, je vois qu'il se passe un truc avec TikTok et je commençais à consommer en fait. Et j'ai commencé à découvrir BookTok, etc. Et je me suis dit, si je veux vendre mon livre, il faut que je sois là à ce moment-là. Et c'est dans cette optique que j'ai ouvert mon compte TikTok et que j'ai commencé à m'amuser un petit peu là-dessus. Et en fait, il s'est avéré que ça a marché beaucoup plus que ce que je pensais. Donc l'objectif a totalement changé parce qu'aujourd'hui, je suis sur TikTok parce que je m'amuse et que je crée du contenu indépendamment de mon livre, en fait. Donc oui, c'était l'objectif premier, mais en fait, ça a totalement changé en cours de route.
Et d'ailleurs, fait très intéressant, j'espère que les gens qui m'écoutent écoutent attentivement. Tu t'es lancée en parlant de romance, mais en tant que lectrice et non pas en tant qu'autrice.
Ouais, je me suis lancée sur TikTok, mais dans une niche qui, je pense, n'existait pas encore du côté français. C'était les parodies Wattpad. Alors, et je pense que ça a marché parce qu'en fait, j'ai découvert à quel point déjà TikTok ciblait très très bien avec les hashtags, etc. Moi, je m'attendais pas trop à rencontrer des gens qui avaient vécu la même chose que moi, les fanfictions, etc., tu vois. Et en fait, ça a touché des gens qui, effectivement, avaient vécu la même période que moi. Et ça a dû réveiller un petit côté nostalgique, en fait, chez les gens. Et donc, ça a pris comme ça.
Oui, et ce qui est intéressant, du coup, c'est que tu ne ciblais pas en plus des auteurs, mais tu ciblais des gens qui aimaient lire la même chose que toi et qui aimaient lire en plus que tu écrivais.
Oui, totalement. Bah, je pense qu'en fait, quand tu crées un lien avec des points communs avec ton public. En fait, il s'intéresse aussi à ce que tu fais à côté. Et c'est un peu ma ligne directrice quand je communique sur mes livres. C'est-à-dire que je ne crois pas trop en l'efficacité des vidéos où juste tu te mets devant ta caméra et tu te dis « Achetez mon livre, ça parle de ça ». Moi, j'y crois pas trop. Je pense que les gens avec les réseaux sociaux, ils ont quand même envie de te connaître et de suivre ton aventure un peu sous forme de storytelling, tu vois. Et c'est comme ça aussi que je m'amuse sur les réseaux. Donc, j'ai pas envie que ce soit un panneau publicitaire, mon TikTok. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, que ça marche.
Bah, personnellement, je, comme je l'ai dit au début du podcast, j'étais tombée sur toi grâce aux parodies. Et qu'est-ce que tu m'avais fait rire, en fait. Et pour le coup, t'es très, très forte là-dessus parce que à chaque fois, je trouve tes contenus très frais et très drôles aussi parce que t'as beaucoup d'autodérision et tout. Désolée, c'est le moment un peu brossage de poils, mais je trouve ça, j'ai trouvé à chaque fois, je passe du bon moment. Genre vraiment, toutes les parodies One Direction et tout, je les ai tout regardées. Ou les meufs de Wattpad qui parlent en langage codé et tout. À chaque fois, ça me fait trop rire, donc.
Je suis contente que ça fasse rire parce que c'est très embarrassant à tourner, sachez-le. Donc si ça fait rire, tant mieux.
Ça, t'inquiète pas, ça marche bien. Mais du coup, aujourd'hui, ton contenu, il est hyper varié. Parce que ouais, on a tendance à dire, oui, TikTok, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à part de la vidéo ? Mais rien qu'avec la vidéo, on peut faire plein de choses. Toi, tu fais de la parodie, on en a parlé. Tu fais aussi beaucoup de vlogs écriture, où du coup, je connais un peu beaucoup trop ta routine, je pense, pour une personne lambda. Et le fait que tu regardes régulièrement Grey's Anatomy, heureusement qu'il y a beaucoup de saisons. Tes lectures un peu étranges et what the fuck en ce moment, j'ai pas mal vu. Ou encore ta vie en Corée du Sud, où tu expliques voilà, comment tu vis, quels sont les prix, comment on se déplace, comment on mange. Est-ce que ce sont des choses qui font partie, encore une fois, d'une stratégie précise de contenu où tu te dis, OK, cette semaine ou ce mois-ci, il faut que je fasse tel type de contenu, il faut que je varie comme ça. Ou alors, tu publies plutôt à l'instinct et ce que toi, tu as envie de faire dans le moment, en fait.
Au début, quand j'ai ouvert le compte TikTok, je pense que j'avais encore cet esprit de stratégie parce qu'en plus, moi, j'ai fait du marketing digital et je me suis beaucoup amusée à comprendre les données analytiques de TikTok. C'était super... j'ai beaucoup appris, en fait, grâce à cette plateforme. Et donc, j'avais un petit peu ce côté stratégique quand même et où je me disais, en plus, tu pars en Corée, ça marche super bien en ce moment, la Corée, sur TikTok. Et en fait, quand j'ai commencé à fonctionner comme ça, je me suis ennuyée, mais du tonnerre sur la plateforme. Ça me plaisait pas du tout parce que j'avais l'impression de devoir cocher des cases et de faire des tâches, en fait. Et c'est pour ça que maintenant... Par exemple, tu vois, on me demande souvent « refais un vlog là et tout, j'ai trop envie de te voir écrire » ou « tes parodies, elles reviennent quand ?» Mais en fait, mon contenu, il évolue avec moi et je me rends compte que j'ai envie de le faire à l'instinct, j'ai envie de faire ce que j'ai envie sur le moment. Là, par exemple, les lectures complètement « what the fuck », elles explosent sur le compte TikTok alors que de base, j'en avais fait une pour rigoler parce que ça me faisait marrer. Et je me rends compte que ça marche et en même temps, j'aime bien. Donc, je continue. Mais je sais qu'à un moment, bah, j'aurais plus envie et je serais déjà sur autre chose, tu vois.
Et d'ailleurs, est-ce que ça t'est arrivé de faire du contenu qui marchait pas, mais qui, toi, te plaisait et où t'as continué de le faire parce que toi, tu kiffais, mais en sachant que ça marchait pas très bien ?
Je pense que les parodies, déjà, ça marchait pas de ouf au début, mais que c'est à force d'en faire qu'elles ont commencé à grossir, par exemple. Mais oui, de toute façon, après, je fais le contenu qui m'inspire, en fait. Donc, si un jour, ça marche pas, je continue et puis c'est pas grave, quoi. Et en plus, il y a toujours... T'as le contenu très large public. Par exemple, les lectures What the Fuck, ça touche au-delà de BookTok. Parce que ça fait rire, c'est de l'humour et c'est des histoires complètement rocambolesques. Mais t'as du contenu un peu plus niche qui marche moins. Et c'est pas grave parce que ça touche quand même les rares personnes que ça intéresse.
Bien sûr. Puis quand on voit ton contenu niche qui fait quand même plusieurs dizaines de milliers de vues sur les plus petites vidéos, je pense que ça touche quand même du monde.
Je pense que je suis un peu sortie de la niche malgré moi au bout d'un moment, effectivement.
D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué s'il y a un contenu qui marche mieux que les autres ? Genre où tu sais pour le coup que bah, dès que tu le postes parce que toi t'en as envie, tu es à peu près sûre à 100% que ça va marcher.
Là, je sais qu'en ce moment, les lectures What the Fuck, c'est sûr que ça explose en ce moment. Il y a les vlogs d'écriture parce que... alors, j'en poste moins souvent parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et en fait, quand t'as une caméra devant toi, mine de rien, t'es un peu moins concentré sur ce que tu fais. Donc, des fois, j'ai envie de souffler. Mais par exemple, le prochain vlog d'écriture, comme ça fait un moment, je sais très bien que les gens vont s'arrêter, en fait.
D'ailleurs, quand tu le filmes, en fait, tu te filmes un peu toute la journée et tu fais le montage le soir et après, tu fais tes commentaires. C'est un peu ça, quoi.
Oui, c'est ça.
Enfin, le soir, le lendemain matin, du coup, vu que tu fais régulièrement des nuits blanches dans tes vlogs d'écriture.
Effectivement. Je dors avant et ensuite je monte.
Dis-moi, justement, par rapport à tout le contenu que tu crées, où tu montres quand même beaucoup de choses de toi, comment tu parviens à maintenir l'authenticité et ta personnalité dans ce travail-là, tout en ayant le côté, bon, il faut se protéger aussi et il faut garder le côté privé. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, je pense, pour beaucoup. Et il y a des gens qui ne savent pas se montrer, il y a des gens qui montrent trop et puis après le regrettent. Toi, comment tu essayes de gérer ça?
Ouais, alors c'est une question que je me repose régulièrement. Est-ce que là, ce que tu montres, tu en as envie? Est-ce que tu veux me montrer plus? Est-ce que tu veux me montrer moins? Et c'est comme ce que je te disais tout à l'heure. Par exemple, il y a des moments où j'ai pas envie de me montrer. Donc, quand on me dit « vas-y, fais un vlog d'écriture et tout », moi, je dis non parce que j'ai pas envie. Et heureusement, je pense que j'ai cette réflexion-là. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, tu vois des personnes qui parfois en montrent trop et qui ensuite regrettent. Moi, j'ai envie de maintenir un certain équilibre. Et par exemple, je sais que les vidéos où je mange ou ce genre de choses, ça m'intéresse pas du tout, alors qu'en Corée du Sud, ça marche très très bien. Et alors ça peut paraître un peu idiot, je vais dire, mais je me renseigne beaucoup sur ce qui se passe au niveau de la télé-réalité, des réseaux sociaux, des influenceurs. Et en fait, tu apprends beaucoup des erreurs des autres et de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Et c'est un peu ce que j'apprends et qui me fait peur par rapport aux réseaux sociaux, qui me dit maintiens tes barrières et fais seulement ce que tu as envie et montre seulement ce que tu as envie. Alors que, surtout en Corée du Sud, le contenu Corée du Sud, ça marche très très bien. Je sais que je pourrais gagner beaucoup d'argent en faisant des vlogs de tout et n'importe quoi, tu vois. Mais ça m'intéresse pas. Donc, et je pense que c'est... En fait, je pense que c'est à partir du moment où tu commences à dépasser ce que tu as envie de faire, que tu commences à montrer trop et à penser qu'aux vues et aux statistiques, en fait.
C'est dur hein, de ne pas y penser en même temps.
C'est dur de ne pas y penser parce que, mine de rien, et je crois que c'est prouvé en plus par des études, les statistiques ont un très très grand effet sur ton humeur quand tu es créateur de contenu. C'est-à-dire que si tu te réveilles le lendemain matin après avoir posté une vidéo et qu'elle a complètement floppé, ça va te détruire le moral. Alors qu'au contraire, si elle a buzzé, bah, tu vas être super content parce que tu te dis « Ouais, j'ai gagné plein d'abonnés, j'ai gagné plein d'argent. » Et je suis assez contente d'avoir assez de recul là-dessus, mais parce que je n'ai pas que ça dans ma vie, en fait. Moi, mon activité qui me tient à cœur, c'est surtout l'écriture, en fait. Donc, j'ai ça à côté pour me maintenir.
Mais d'ailleurs, autre question, tu disais, bah voilà, quand ça buzz, ça fait beaucoup plaisir. En tant que petite, plutôt plus petite créatrice de contenu sur TikTok aujourd'hui, j'ai eu quelques vidéos qui ont buzzé. Et en fait, ça m'a pas fait plaisir, ça m'a fait un peu flipper. Est-ce que t'as pas déjà eu, toi, ce sentiment où quand une vidéo buzz trop et attire des personnes qui sont pas forcément en plus les personnes que tu souhaites attirer, c'est pas un peu angoissant et anxiogène?
Alors, je pense que j'ai passé l'étape il y a quelques mois, quand mon compte il a dépassé les 150 000 abonnés. J'ai passé l'étape où les gens qui commençaient à me voir dans leur feed, c'était pas du tout de ma niche. Et des fois, ils comprenaient pas du tout le délire et ils étaient très méchants, moqueurs, ils allaient se disputer dans les commentaires, c'était un mood qui me plaisait pas du tout. Et à ce moment-là, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, c'est pas du tout ce que je veux moi pour mon compte. Et en fait, si je dois donner un conseil vraiment aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, n'ayez pas peur de bloquer. Si cette fonction existe, c'est parce qu'il faut l'utiliser. Moi, par exemple, à la moindre réflexion qui me dérange, à la moindre insulte, tu vois, aux gens désagréables dans les commentaires pour rien, qui cherchent la petite bête et tout, je bloque directement. Et en fait, ça purge mon compte. Et non, mais c'est terrible à dire, mais tu purges comme ça petit à petit. Et en fait, au final, les gens se retiennent parce qu'ils n'ont pas envie de se faire bloquer. Ou alors juste, il ne reste plus que les personnes qui sont de bonne humeur et voilà. Okay. Donc, bloquez les gens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de paraître aigri. Et bloqué.
De toute façon, ils ne pourront pas aller râler, les gens qui ont été bloqués.
Exactement.
Dis-moi, alors là, c'est vraiment une question, je ne l'avais pas prévue, mais en même temps, en tant que personne qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, je me la pose. Est-ce que tu sais combien de temps par jour tu passes à créer du contenu ou à être sur TikTok? Parce que là, c'est un peu mon cheval de guerre, personnellement, mon fer de lance. Je ne sais plus du tout quelle est l'expression, mais vous m'avez tout à fait compris. Genre, c'est un peu mon combat actuel, diminuer mon temps sur les réseaux sociaux parce que c'est terrible le temps que j'y passe. Est-ce que toi, tu contrôles ça ou pas du tout?
Il y a eu une période où je ne contrôlais pas du tout, à tel point que... Mais en plus, franchement, on en parle partout parce que c'est un peu le nerf de la guerre, le temps passé sur TikTok. Et la baisse de ta capacité de concentration que ça implique. Et il y a une période où carrément, j'avais besoin, tu vois, d'avoir mon téléphone à côté de moi alors que je regardais une série. parce qu'il fallait que je scrolle en même temps. Tu vois, mon cerveau était incapable de se concentrer sur une tâche en même temps, parce que TikTok, en fait, ça t'habitue à consommer très vite le contenu et à changer tout le temps. Et cette phase-là, je me suis rendu compte que c'était pas possible, que je pouvais pas continuer, parce que j'arrivais même plus à écrire, en fait. C'est-à-dire que j'écrivais 3 lignes et ensuite fallait que j'aille checker mon téléphone, il fallait que je scrolle, c'était maladif, tu vois. Et en tant que consommatrice, j'ai eu cette phase-là. Par contre, en tant que créatrice, je vais me faire insulter, mais en fait, le soir, j'ai une idée, je pose mon téléphone, je filme et je poste, et voilà, tu vois. Ça me demande pas autant de temps, je pense, que les gens pensent. Mais c'est vrai que par contre, en tant que consommatrice, j'ai eu cette période-là. J'ai réussi à m'en détacher, heureusement, parce que je suis revenue à ce qui me poussait à être en Corée du Sud, et je me suis mis un petit coup de panique en me disant « si tu continues comme ça, tu vas le regretter ». Mais voilà, faites attention à TikTok, c'est très bien d'un côté, mais en même temps, mettez-vous des barrières et mettez-vous des petits freins, parce que...
Mais est-ce qu'il y a besoin d'être consommateur pour être créateur ?
Moi, j'étais pas trop consommatrice quand je me suis lancée. Je crois que je comprenais même pas trop, tu vois, ce qu'il y avait autour de TikTok. En plus, j'avais encore la vieille image des gens qui faisaient des danses dessus. Et aujourd'hui, donc j'ai eu cette phase où je consommais. Et quand je me suis rendu compte à quel point c'était néfaste pour moi. Alors, je pense que c'est pas néfaste pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui savent se retenir, etc. Je suis devenue beaucoup moins consommatrice. Aujourd'hui, je pense que je le suis beaucoup moins. Donc, je pense pas que tu sois obligée d'être créatrice et consommatrice.
Oui, parce que finalement, toi, tu suis très peu les trends. Écoute, sache que j'ai fait un petit cours à un moment donné et je t'avais dit que je t'avais mentionné dans le cours, et je vais donc analyser ton contenu, sachez-le. Et notamment, toi, tu fais extrêmement peu de trends et tu utilises extrêmement peu de sons à la mode et tout. Donc, c'est vrai que ça te permet de pas avoir à suivre en fait ce qui se fait en ce moment, là où d'autres créateurs sont totalement dépendants de qu'est-ce qui est en ce moment tendance en termes de son ou pas.
Ouais, quoi. Bah, je pense que ce qui te rend indépendant, et en même temps, si tu veux, le problème des trends sur TikTok, c'est que ça t'oblige toujours à les suivre si tu veux continuer à maintenir tes statistiques et à maintenir tes abonnés, en fait. Je pense qu'il faut que, si tu veux réussir sur TikTok, ou en tout cas si tu veux être à l'aise avec ton propre contenu et ne pas toujours être dépendant des trends, tu dois être ta propre niche, en fait. Tu dois être ta propre trend. C'est-à-dire que les gens, s'ils te voient passer sur leur feed, il faut qu'ils s'arrêtent parce que c'est toi et pas parce que c'est une trend. Et je pense avoir réussi à faire ça de façon à ce que je ne sois pas obligée tout le temps d'être sur mon téléphone en train de vérifier tout ce qui se passe pour être sûre de faire mes vues, etc. Tu vois.
Je trouve que c'est bien. On parlait tout à l'heure un peu de statistiques et du fait que toi, tu as pas mal pris le temps de les analyser et tout, que ça provoque des sauts d'humeur. Est-ce que tu penses que TikTok, ça joue un rôle majeur dans la vente de tes romans, et comment tu le mesures ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, tu vois, il y a un adage un peu dans la publicité où on dit qu'on ne sait jamais si la publicité apporte des résultats ou non, à moins bien sûr de mettre des liens spécifiques et tout. Avec Internet, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais on dit un spot TV, c'est tu jettes de l'argent par les fenêtres sans savoir ce que ça veut dire. Est-ce que au niveau des réseaux sociaux, tu considères que c'est un peu pareil, genre tu sais que tu apportes de la visibilité, mais en même temps tu sais pas tellement si ça apporte des ventes, ou alors tu arrives à calculer ce que ça t'apporte réellement en termes de vente finale à la fin, de conversion?
J'ai jamais le chiffre exact, c'est très difficile de se dire la vidéo que j'ai postée hier, elle m'a rapporté 5 ventes, mais en vrai je sais déjà que si j'avais pas été sur TikTok, j'aurais jamais vendu aussi bien mon livre, parce que y avait sa petite visibilité sur Wattpad, mais j'avais pas énormément de visibilité sur Internet. Et en fait, je vois, par exemple, quand je poste une story sur Instagram ou une vidéo sur Wattpad qui parle du livre, ou quand je dis en commentaire « Allez acheter mon livre, faut rigoler », j'ai un petit pic de vente, tu vois. Alors, KDP, c'est genre 3 jours après que tu vois les ventes qui ont été faites les 3 jours d'avant. Et donc, je vois un peu à ça. Mais au fur et à mesure, quand j'ai un peu arrêté de communiquer dessus, par exemple, en ce moment, je communique plus du tout dessus parce que j'ai pas le temps, en fait. Et je suis beaucoup plus dans une création de contenu indépendante de Cupidon. T'as quand même le bouche à oreille qui commence à fonctionner, et en fait, tu fais des ventes régulières.
Oui, t'as un palier. D'ailleurs, pour toi, c'est quoi les chiffres à surveiller sur TikTok ? Les statistiques où, pour le coup, c'est là où toi, tu fais le plus attention, finalement ?
Alors, j'ai beaucoup fait attention à ça au début, parce que j'ai analysé énormément. C'est vrai que maintenant, je regarde même plus, je pense, mes statistiques. Ouais, le plus important, je pense que c'est combien de temps en moyenne les gens ont regardé ta vidéo. Comme ça, tu vois en fait si tu as accroché la personne tout de suite ou sur le long terme. Et c'est ça en fait qui va te faire grossir une communauté. C'est si vraiment ce que tu racontes, ça intéresse les gens.
Ok, c'était la stat la plus importante pour toi. Je pense qu'elle est effectivement pas mal du tout quand on voit que bah c'est le temps de rétention qui fait qu'une vidéo, elle est montrée à plus de gens et tout ça. Ok, bah, j'ai une question un peu piège.
Ah, excuse-moi. C'est surtout
en fait... Vas-y, dis-moi.
Si une personne regarde longtemps ta vidéo, c'est qu'elle est foncièrement intéressée par ce que tu dis. Donc forcément, elle va s'abonner et elle va attendre la suite de ton contenu en fait. Et donc elle va regarder longtemps la prochaine vidéo et je pense que c'est comme ça en fait que tu construis une communauté qui te suit pour ce que tu proposes et pas pour les trends, oui. Par exemple.
Oui, c'est clair. Dis-moi, j'ai un peu une question un peu bâtarde.
Oui.
Si ton compte était striké demain, genre supprimé, effacer la plateforme, tout ce que tu as fait, toutes tes vidéos, tout ça, supprimé. Et que tu devais tout recommencer à zéro. Je sais, c'est le cauchemar de tous les créateurs de contenu, mais imaginons ça arrive. Qu'est-ce que tu ferais pour recommencer à zéro? Est-ce que tu recommencerais à zéro déjà de base? Est-ce que tu redémarrerais ou pas? Désolée, alors les gens ne le voient pas puisqu'ils n'ont pas la vidéo, mais je te menace avec mon stylo pompon. Mais
je suis terrifiée. Mais
je pense que tu peux être terrifiée. Est-ce que tu redémarrerais à zéro et qu'est-ce que tu ferais pour essayer de rattraper cette perte? Parce que, et en plus, voilà, quelles seraient tes stratégies ou pas tes stratégies, mais au moins, face à quelqu'un qui, lui, démarre de zéro sans communauté, au moins, toi, qu'est-ce que toi, tu ferais à sa place, entre guillemets?
Alors, première étape de la stratégie, je me roule en boule dans mon lit et je pleure.
Étape extrêmement importante.
Voilà, histoire d'évacuer un petit peu. Qu'est-ce que je ferais? Alors, je pense avoir la chance d'avoir une communauté assez grosse pour en fait revenir et petit à petit reconstruire ma communauté parce qu'ils vont me reconnaître dans leur feed. Mais pour quelqu'un qui commencerait, la stratégie TikTok a énormément changé depuis que moi je me suis inscrite, où en fait il fallait suivre les trends, il fallait mettre des hashtags, etc. Aujourd'hui, j'y crois plus vraiment. Tu peux faire une vidéo qui te ressemble sans avoir besoin de suivre une trend et tout, mais si tu l'as fait avec le cœur et que vraiment ça te ressemble et que ça, tu touches un truc du côté du public, elle peut facilement buzzer même si c'est ta première vidéo. Donc je pense que, au contraire d'avoir une stratégie, je pense que maintenant sur TikTok, il faut limite ne pas avoir de stratégie prédéfinie. C'est-à-dire que tu fais ce qui te plaît et tu vois ce qui marche et tu t'accroches à ça.
Et donc toi, si tu devais tout recommencer demain, c'est ce que tu ferais?
Ouais, je pense que je repartirai pas sur les parodies parce que ça me ressemble plus, par exemple, tu vois. Je ferai ce que j'ai envie et je verrai bien.
Ça me semble être un bon conseil. Dis-moi, j'ai une question des auditeurs. Tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais en même temps, je me dis qu'elle est pour le coup importante parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est un vrai frein, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Comment tu gères les commentaires haineux? Bon, toi, tu as dit que tu bloquais, mais aussi peut-être gérer émotionnellement. Est-ce que tu arrives à prendre du recul là-dessus? Parce que des fois, il y a des commentaires qui touchent à notre travail, des fois à notre personne. Toi, comment tu gères ça?
Alors, en plus, pour avoir publié mon premier livre, c'était une question qui se posait. Comment j'allais réagir à la négativité? Parce que tu peux pas plaire à tout le monde et même ce que tu écris ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'était une grande, grande peur. Et même en me lançant sur les réseaux, on me parlait du fait que les gens, des fois, ils vont trop loin, etc. Et en fait, j'ai appris juste après avoir ouvert mon compte en plus, que la colère faisait baisser l'espérance de vie. C'est-à-dire que moi, je suis dans une position où en fait, quand je reçois de la haine, je me dis, toi, tu vas vivre moins longtemps que moi. Donc, ça me regarde pas, en fait, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Et c'est vrai que je suis vachement dans cette philosophie-là, en fait. Le calme est salvateur, donc...
Donc ça va, aujourd'hui quand tu reçois quelque chose qui est purement méchant et tout, t'arrives à prendre ce recul-là et à te dire c'est le problème de la personne, c'est pas le mien.
Oui, bah c'est d'autant plus facile en fait de recevoir une critique qui n'a aucun fondement que de recevoir une critique qui a un fondement et où effectivement ça te fait prendre du recul et réfléchir à ce que t'as fait, tu vois. Donc
ouais. Ok, bon c'est rassurant. Dis-moi, j'arrive à la dernière question du podcast, qui est un peu la question signature où elle change en fonction de l'invité, mais c'est à peu près la même chose. Si tu devais donner 3 conseils à un auteur ou une autrice qui aimerait se lancer sur TikTok pour augmenter sa visibilité et se créer une communauté de futurs lecteurs, que serait-il?
Ah là là, attends, il faut que je réfléchisse ça.
Prends ton temps, t'inquiète pas. Moi et mon pompon, on va te menacer tranquillement en attendant. Pour ceux qui se demandent, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Instagram, c'est le stylo que j'ai reçu dans la box du dernier livre de Cassandre Lambert. Et c'est un pompon au bout. Il est hyper doux et je la menace avec depuis tout le début de l'épisode. Pauvre Eva.
Je suis forcée de tourner cet épisode par ce pompon.
Oui, tout à fait.
Alors, premier conseil, ne fais pas de ton compte TikTok un panneau publicitaire pour ton livre. Les gens n'en veulent pas et je pense que toi tu n'en veux pas non plus parce que tu vas finir par t'ennuyer. Deuxième point, je dirais que commence par intéresser les gens en leur montrant ton processus d'écriture et un peu ton quotidien en tant qu'auteur, parce qu'en fait le métier d'auteur c'est hyper fantasmé, à tort ou à raison. Et je pense que c'est un contenu qui plaît vachement, vachement aux gens. Et c'est là où les gens, ils commencent à s'attacher à ton personnage et à ce que tu fais, en fait. Et troisième point, cherche la qualité avant la communication. C'est-à-dire que tu peux communiquer autant que tu veux sur TikTok. Si ton livre, en fait, il te plaît pas à toi et qu'en fait, il est pas bon parce que tu t'es pas mis à fond dans l'écriture et tu t'es plutôt mis à fond dans la communication, il y a peu de chances que les gens te fassent confiance et reviennent pour ton deuxième livre. Donc, la communication, c'est bien sur TikTok, mais c'est pas le plus important quand t'es auteur, au fond.
Merci énormément. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, la com, c'est important, mais le premier métier d'un écrivain, c'est d'écrire des romans.
Bah oui. Et je parle, mais en plus, enfin, tu vois, j'ai eu cette période où je commençais à me perdre et où je laissais beaucoup trop de place à TikTok au point où ça commençait à prendre trop de place, en fait, sur mon écriture. J'avais plus le temps parce que je stressais, je me disais, oh là là, qu'est-ce que je vais faire sur TikTok demain, etc. Et c'est là où j'ai été malheureuse, en fait, dans mon quotidien, parce que je faisais pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était écrire avant de faire des TikTok, tu vois. Donc, même à l'auteur, ça le sert pas du tout.
Merci énormément, Eva. Sache que je suis fan de toi, genre vraiment, et que j'étais trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast pour discuter de tout ça, parce que je crois que c'est beaucoup de questions pour beaucoup de personnes de se dire, ok, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, c'est un peu flippant. Je trouve que t'as un parcours assez formidable et je te souhaite que du coup, l'année prochaine, en 2024, au bout de tes un an, toi, tu sois parti et que tu aies réalisé tous tes objectifs. Je vois que tu as des objectifs mensuels à chaque fois que tu mets un peu en story Instagram et tout. Donc, je trouve ça trop chouette. Et du coup, je te souhaite beaucoup de bonheur. Dis-moi, est-ce que tu aurais déjà, d'ailleurs, à me dire, un prochain projet donc, que tu aimerais évoquer ici avec nous, avec les auditeurs?
Alors, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Il y a effectivement un projet qui est prévu en auto-édition pour mars 2024, si tout se passe bien. Mais, je dis bien mais, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, il y a un autre projet en édition pour 2025 dans lequel je parlerai sur lequel je parlerai quand je pourrai parler. Donc, possiblement, voilà, je ne sais pas encore si c'est l'édition ou l'auto-édition pour le prochain projet.
Donc, peut-être l'ambition de devenir autrice hybride avance à grands pas, quoi.
Effectivement.
On n'en dira pas plus parce que je pense que tu diras ça en temps voulu, mais j'adore les petites exclus et je suis très contente que tu m'aies donné celle-là. Merci énormément. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
Oui, c'était génial. Bah, je te remercie à toi pour m'avoir invitée. C'était super.
Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas du coup à aller suivre Eva Kim du coup sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et sur TikTok, pour passer un bon moment et aussi pour découvrir un peu plus son travail. Et de même, si le complexe de Cupidon, le pitch vous a plu, vous savez où le trouver sur Amazon et Amazon KDP. Du coup, merci encore Eva. Je te souhaite une très très belle journée. Tous tes réseaux sociaux seront dans les notes de l'épisode. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Sur ce, je vous dis écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut !